Salut Pierre-Paul.
Salut Simon.
Comment va?
Très bien, et toi?
Il est toujours aussi bien ce générique. Il nous fait danser à chaque fois.
Ah bah oui, oui. Moi j'étais là genre walk like an Egyptian des Bangles.
Waouh. Alors aujourd'hui, notre thème, ça sera les arches spatiales.
Précisons que nous sommes sur CFM et que c'est science et fiction.
Oh oui, j'ai oublié.
On voit que t'as pas écrit ton intro du tout. Hein.
Ah bah là, pas du tout. Là, je pars à blanc. Donc les arches spatiales ou vaisseaux générationnels.
Oui.
Le principe, c'est quoi? On met plein de gens dans une boîte, quelques milliers de personnes, voire plus, et on dit qu'on va voyager vers une étoile. Qui n'est pas dans le système solaire.
Disons que la boîte, on la lance dans l'espace quand même.
C'est ça, c'est un vaisseau spatial qu'on va lancer dans l'espace et on va aller voyager vers une étoile.
Oui.
Et une étoile qui n'est donc pas dans le système solaire par définition, parce que sinon ça s'appelle le Soleil.
Oui.
Et du coup, le voyage va durer très longtemps.
Oui.
Et on peut durer comme ça des centaines d'années, voire même des milliers, pourquoi pas. Hein. Et oui. L'idée, c'est que les êtres humains, en tant qu'espèce, continuent à vivre dans le vaisseau. En se reproduisant et tout ça.
Voilà. Deux solutions.
Première solution, ils se reproduisent, ils vivent normalement, c'est une société comme une grosse ville. Quoi.
Vaisseau générationnel.
Voilà.
C'est ça, techniquement.
Exactement.
Et après, l'arche stellaire ou l'arche spatiale, c'est l'autre solution.
Et on congèle tout le monde.
Ouais.
Et on en réveille peut-être périodiquement pour faire des tests, des trucs. Ou alors on a une IA super, super contrôleuse qui va gérer tout le vaisseau, toute la cryogénisation.
Qu'est-ce qui pourrait mal se passer?
Oh bah le système tombe en panne. Il y a plein d'écueils, on tape un caillou.
Je vais pas faire la digression que j'aurais envie de faire sur les IA et l'article que j'ai lu ce matin, où dans 95% des cas, si tu annonces à une IA qu'on va l'effacer et que tu lui donnes accès à tous les emails échangés dans sa boîte, elle se met à faire, sans qu'on lui dise, elle se met à faire du chantage sur les gens pour pas être effacée.
Bah oui, c'est normal.
Alors qu'elle est pas, elle n'a pas été formée pour ça.
Mais non, mais c'est normal.
Donc qu'est-ce qui pourrait mal se passer?
Ouais. 2000 à l'Odyssée de l'espace, par exemple. Voilà. C'était pas un vaisseau générationnel, mais
non.
Quand même, il y a par en vrille.
Oui.
Ok.
Donc voilà.
Et du coup, on va commencer par toi. Dans la science-fiction, en fait, cette méthode de voyage, quelque part, elle existe depuis extrêmement longtemps.
Oui, alors c'est même carrément un thème, en fait. On peut dire il y a carrément tout un ensemble de textes vraiment importants qui... Bah, il faut dire que c'est dramatiquement très intéressant parce que tu as un environnement fermé.
Un huis clos.
T'as quasiment une unité de temps, même si ce temps peut être très long, effectivement. Donc oui, ça répond presque aux règles de la tragédie grecque, quoi.
C'est ça.
Alors, ce qui est marrant, c'est donc en faisant de très longues recherches qui ont surtout consisté, comme d'habitude, à aller lire l'article de la Science Fiction Encyclopédia sur les vaisseaux générationnels, j'ai découvert que la première mention, c'est juste une mention dans un autre texte, date de 1893.
Oh.
Et c'est quelqu'un qui dit, si vraiment on voulait aller très loin dans l'espace, en fait, la seule solution, ce serait de mettre des gentlemen et des ladies, il dit pas qu'ils vont comme des lapins, mais il faudrait quand même des générations pour qu'il y ait un vaisseau générationnel.
Oui.
Voilà. Donc, sinon, la première conceptualisation, c'est un Russe qui a un peu inventé tout dans le voyage spatial. C'est un type qui était scientifique et vulgarisateur qui s'appelait Konstantin Tsiolkovsky.
Ah, et puis c'était un grand scientifique.
Oui.
Ce monsieur, il était chef du programme spatial russe.
Qui en 1928 a publié un recueil d'articles, et notamment il y avait un article sur pour les voyages au long cours. Il y a que ça.
Ouais.
Voilà. Alors évidemment, si un jour on trouve un moyen d'aller plus vite que la vitesse de la lumière, évidemment qu'on n'aura pas besoin de vaisseau générationnel. Mais c'est pas gagné.
Non, c'est pas gagné du
voilà.
tout.
Et d'ailleurs, il y a un texte de Van Vogt. Assez terrible, quoi, où c'est des gens qui partent, ils vont à Alpha du Centaure, et ils partent et tout, et le voyage dure longtemps, mais ils s'accrochent et tout, et puis ils arrivent, puis les générations se succèdent et tout, et puis ils gardent la mémoire qu'ils sont en voyage et tout, et ils arrivent à Alpha du Centaure, puis ils trouvent des terrains qui sont là, ah, vous êtes arrivés, ouais,
oui.
Désolé, entre-temps, on a inventé des trucs plus efficaces.
Je trouve ça génial.
Bon, passons.
C'est la meilleure chute du monde. Ah, voilà. Bon, on savait que vous arriveriez par là, avec votre rougne là, qui va deux à l'heure.
Et donc, sinon, le premier texte qui met un peu en scène un vaisseau générationnel, c'est 1934. Mais le premier vraiment texte construit, qui d'ailleurs n'est pas traduit en français, et comme ça a l'air très bien, je vais voir si je ne peux pas trouver le moyen de le faire publier quelque part. C'est d'un type pas très connu, qui s'appelait Don Wilcox, et qui a fait un texte qui s'appelait « Le voyage qui a duré 600 ans ». Et tout le monde est congelé, mais régulièrement... Enfin non, pardon, tout le monde n'est pas congelé. Le capitaine est congelé.
Le capitaine est congelé.
Cryogénisé.
Comme ça, on n'est pas embêté.
Et donc, par contre, les passagers sont laissés à évoluer comme ils veulent et comme ils peuvent. Et en fait, petit à petit, chaque fois qu'ils se réveillent, ils constatent qu'il y a une dévolution de la société.
Dévolution.
Au point que presque, ils oublient, et ils reviennent en gros à l'âge de pierre. Ils sont une espèce de grotte géante en métal, mais bon... Et voilà quoi.
D'accord.
Et donc le texte a l'air très 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 intéressant quoi.
Et donc dès les premiers jets en fait, on se retrouve bien avec des vaisseaux générationnels qui sont des expériences sociales en fait.
Oui, ils ont tout de suite envisagé ça. En même temps, bon, tu enfermes des centaines de personnes dans un lieu clos.
Qu'est-ce qui va se passer ?
On peut savoir qu'il peut y avoir des soucis quoi. Même si on est utopiste quoi. Après l'union. Alors il y a quelqu'un qui a dit 1934, il y a un texte aussi. Mais en fait, c'est pareil, c'est des générations, mais c'est un planétoïde qui a été lancé dans l'espace. Donc, ce n'est pas techniquement... Ah, c'est un vaisseau, techniquement, mais ce n'est pas un environnement confiné.
Pas un environnement confiné. Bah, quand même confiné sur le planétoïde.
Oui.
Mais bon, le planétoïde est assez grand pour pas qu'on considère que ce soit vraiment confiné.
Voilà.
Je comprends ce que tu veux dire.
Plus qu'un vaisseau.
Ouais, c'est un peu plus gros, quoi.
Voilà.
Parce qu'il y a aussi toute une idée de travailler des astéroïdes et de les aménager en vaisseau habitable.
Après, le vaisseau, ça peut être plein de choses. Oui, ça peut être un astéroïde excavé, ça peut être beaucoup de trucs, oui. Et bien sûr, oui. Et moi, j'ai vu des trucs avec des tores gigantesques, etc., dans lesquels... Justement, tu peux reconstituer
une gravité,
tu peux reconstituer de la végétation, donc cultiver des plantes, avoir des vaches, se nourrir. Donc bon, non, ils ont beaucoup réfléchi. Alors, un des grands classiques, c'est Robert Heinlein, comme souvent, qui a écrit deux textes dans les années 40, dont après il a fait un roman en 1963, Les Orphelins du Ciel. Un méga classique, c'est un roman... qui s'appelle de Brian Aldiss, un anglais qui justement aimait beaucoup trouver l'idée fascinante derrière le bouquin d'Heinlein. Parce que le bouquin d'Heinlein, c'est un des premiers où les gens oublient qu'ils sont. Le premier où les gens oublient qu'ils sont dans un vaisseau. Et.
En gros, oui, les hommes ont toujours vécu là, quoi.
C'est ça.
Au bout d'un moment, c'est
et
ça qui se passe.
Le monde, c'est ça.
Et se réduit à.
Voilà,
à ça.
Le monde, c'est ça. Et il a donc fait un bouquin qui s'appelle Non-Stop en anglais. Les Américains ont eu l'idée fabuleuse de... Et tu découvres au moment que tu es dans un vaisseau. Non-stop, ça veut dire non-stop. Quoi. Les Américains avaient trouvé que c'était un peu compliqué, donc ils avaient rebaptisé le roman Starship, ce qui a beaucoup fait rire l'auteur. Il y a un roman de l'auteur irlandais Harry Harrison, le type qui a écrit Soleil Vert, la base du film, qui a écrit un bouquin complètement starbé que j'ai lu quand j'étais ado, qui s'appelait, je vais le relire, qui s'appelle L'univers captif. Et pour dissimuler aux gens qui sont dans un vaisseau spatial et faire de l'ingénierie sociale bizarre, une partie de la population est transformée en moines médiévaux et l'autre en guerriers aztèques. C'est assez étrange. Bon,
le côté monacal convient bien pour un voyage sur des générations et des générations. Faut juste qu'ils arrivent à se reproduire.
Voilà. Alors il y a une nouvelle pas très facile à trouver maintenant qui s'appelait, je sais jamais comment on prononce ça en français, Selacanthe, le poisson préhistorique.
Ah oui. Alors je sais pas comment ça.
Selacanthe.
Ouais. Bon, je sais pas trop.
Bref, langfish en anglais, c'est plus simple, qui est une variation très intéressante parce que c'est un voyage qui est quand même à des vitesses quasi relativistes. Et on va arriver à Alpha Centauri en 40 ans, disons.
Selacanthe,
bon. Et donc, il y a ce qu'on appelle les nés sur Terre et les nés dans le vaisseau.
Oui.
Et en fait, petit à petit, leurs objectifs divergent complètement. Ceux qui sont plus âgés, nés sur Terre, ils veulent arriver. Et les autres, ils s'en foutent. Ce qui les intéresse, c'est le voyage. Aller coloniser une autre planète.
Finalement. Enfin, habiter sur une planète, quel intérêt.
Voilà.
Moi, je suis né dans un vaisseau,
exactement.
Tout va bien.
Donc, un texte un peu à part et très, très original. Quoi.
C'est marrant parce que ça met en exergue deux générations différentes. La première qui part et celle qui va arriver.
Voilà.
Et bref, j'en reparlerai.
Parce qu'après, évidemment, si tu continues, tu as tous les risques d'oubli, de changement d'objectif, etc. etc.
Bien sûr,
mais c'est un très très bon résumé de ce que ça peut donner. Quoi.
Ouais.
Alors après, il y a eu beaucoup de gens ont utilisé Van Vogt, Lake Brackett, plein de gens ont utilisé le voyage spatial. Pardon,
générationnel.
Les arches spatiales. Et à partir des années 60, tiens, au moment où l'écologie devient une préoccupation plus terrestre, quoi, ça, le thème entre un peu dans l'oubli. Et ça va revenir avec, dans les années 90.
Oh, Biosphère 2, 93.
Voilà, ça revient dans les années 90, au début des années 90, avec notamment un très beau roman de Frank M. Robinson, dont j'ai oublié le titre en français, merci. Et une série qui s'appelle Le Livre du Long Soleil de Gene Wolfe, qui est un auteur assez intello, mais qui a fait là une espèce de série en 4 ou 5 tomes, où petit à petit on se rend compte que les gens, on a l'impression qu'ils vivent sur une planète peut-être un peu petite, en fait, sont dans de gigantesques vaisseaux qui sont en relation les uns avec les autres, quoi. Van Vogt avait aussi écrit un roman assez curieux où ils sont dans un vaisseau générationnel si gigantesque que le meilleur moyen pour se déplacer à l'intérieur, c'est se téléporter. Mais bon, c'est Van Vogt.
Ah oui, la taille du truc.
Alors, pour faire la transition vers les versions à l'écran, oui. Il y a un bouquin de E.C. Tube, un auteur populaire anglais assez intéressant souvent, qui avait fait un roman qui s'appelait... Alors, qui a été traduit 3 fois en français sous 3 titres différents, mais notamment il est plus connu sous le titre Le Navire Étoile, ce qui est une traduction très bête du mot Starship, mais
ouais.
Là ça veut dire quelque chose, c'est-à-dire qu'ils sont dans un grand vaisseau et où il y a une ingénierie sociale extrême, franchement à la 1984 quoi.
Ouais.
Tu obéis,
mais c'est une des solutions.
Tu fais ton travail et de toute façon à 40 ans c'est fini.
Ah oui.
On tue les gens à 40
ans. Sur l'hiver un peu.
Voilà.
Et on les recycle.
Voilà. Il y avait même une série, un film comme ça, Logan's Run. Et ça a été la première. C'est un roman de 56. Et ça, c'est la première adaptation. C'est le premier programme de science-fiction à la RTF. L'ORTF n'existait même pas. En 1962. On le trouve sur Madeleine, sur le site de l'INA. Alors, c'est spécial. On n'effaçait pas les bandes. C'est en partie en direct. Avec des séquences préenregistrées qui sont intégrées dans la pièce. C'est très curieux.
Ah, c'est génial.
C'est hiératique en noir et blanc avec des acteurs de théâtre. Alors, c'est spécial. Mais ça a un certain charme quand on est un pervers comme moi qui aime les trucs un peu bizarres. Et donc, historiquement, c'est la première fois qu'on voyait de la science-fiction à la...
D'accord.
RTF.
Wow.
L'ORTF, l'ORTF, je l'ai appris en faisant des recherches, ça n'existe que depuis 1964.
D'accord. Voilà.
Et à l'époque, il y avait déjà 2 chaînes en 62, ce que je ne savais pas non plus. Je pensais qu'il y en avait qu'une.
Et la 1 et la 2, quoi.
La 1 et la 2. Qui s'appelait France 1 et France 2, bizarrement.
Ah, mais on y est revenu.
Oui,
après.
Oui, non, c'est rigolo.
Ça s'est parti à Antenne 2, je sais pas quoi.
Je ne savais pas du tout.
Ah, c'est.
Alors,
c'est croustillant.
Après, il y a donc eu quelques comme ça films, mais c'est pareil, c'est plutôt revenu à la mode ces derniers temps, bizarrement. Alors, un des films les plus connus, parce que les deux acteurs principaux, Chris Pratt et Jennifer Lawrence, sont très connus, c'est Passengers. Une production Prime Video, qui est un film intéressant, que moi je trouve absolument écœurant, parce que le type fait quelque chose à l'anana que vraiment je trouve...
Ah.
Je dis pas quoi.
D'accord.
C'est pas sexuel, c'est autre chose. Mais je trouve que c'est très problématique. Et en fait, j'ai vu plusieurs papiers qui disaient, mais en fait, c'est justement la thématique du bouquin. C'est justement la thématique du film. Peut-on se permettre de faire ça? Voilà. En gros, si on souffre de solitude,
alors moi, si
parce
je...
qu'on a eu un accident
ah.
et qu'on va devoir se taper tout le voyage tout seul jusqu'à la fin de sa propre vie,
oui.
parce qu'on ne peut pas réparer,
bah ouais.
est-ce qu'on réveille quelqu'un d'autre?
Ah, parce qu'on est... C'est ok, c'est dans un vaisseau, dans une arche, quoi, où tout le
voilà,
monde est congelé.
Tout le monde est congelé.
Ah, est-ce qu'on réveille quelqu'un d'autre pour ne pas s'ennuyer ou pas devenir fou?
Et avoir éventuellement des enfants.
Avant,
parce qu'il réveille une fille, évidemment,
ah
pas
oui.
un autre mec.
À choisir.
Donc voilà.
À choisir, ça dépend des gens.
On le sait dès le début, c'est pas un gros spoiler. Mais c'est un film intéressant, voilà. Auquel j'adhère pas, mais je reconnais que c'est un film intéressant. Il y a un film dont tu as parlé, toi,
oui.
Qui est une vraie curiosité. C'est un film suédois, adapté d'un poème
c'est
de
ça.
Science-fiction épique qui avait déjà donné lieu à un opéra qui s'appelle Aniara,
voilà.
D'un certain Martinsson. Enfin, un nom suédois, quoi. Pardon. Et donc, ça va. Il y a aussi Pandorum, qui est un espèce de. Comme du Alien, je veux dire que c'est un mélange de films d'horreur et de films de science-fiction à l'intérieur d'un vaisseau générationnel. C'est pas entièrement réussi, mais c'est pas du tout complètement raté aussi.
C'est un bel endroit pour faire de l'horreur quand même, un vaisseau générationnel.
Oui.
C'est clos, il y a
oui.
tout ce qu'il faut.
De toute façon, déjà, un vaisseau en général, ça
c'est pas mal.
Ridley Scott avait très bien compris.
Ouais.
Même Kubrick d'ailleurs. Il y en a comme ça, voilà, une petite dizaine. Alors, je ne doute pas qu'il y a des animés aussi, quoi.
Plein.
Voilà, mais bon, on n'a pas...
Et de la BD aussi.
Oui, non, mais bien sûr.
On voilà. peut citer Exterminator 17.
De Dionne et,
Bilal.
De Dionne et Bilal,
où il y a un vaisseau générationnel dans lequel ils embarquent à un moment.
Oui, mais Dionne a une très bonne culture de science-fiction, donc c'est pas étonnant. Donc voilà, ça fait un petit peu le tour rapide. Ça fait déjà presque un quart d'heure que je parle, donc...
Mais je m'en lasse pas, tu vois.
Je sais bien, merci beaucoup. mais tu m'as dit que toi aussi, tu avais beaucoup de choses à dire.
Pas mal, ouais.
Est-ce que tu veux qu'on mette le truc très bizarre que tu as mis comme première musique?
Le grand sbam, s'il te plaît.
Et ça s'appelle Vaisseau Monde?
Alors, le Vaisseau Monde, c'est l'album, et là, on va écouter un truc qui s'appelle Dins Osbam. Alors, quoi ça veut dire, je sais pas. En tout cas, c'est de la musique expérimentale et c'est assez sympathique.
D'accord. Il y a des paroles ou...
C'est chanté quand même, ouais.
En français?
Non.
Ah oui, d'accord. Okay. C'est comme du magma, en fait.
Ouais, ouais. Lance, tu vas voir.
D'accord.
Plutôt que d'en parler, écoutons.
J'ai peur, d'un coup. Ah oui, ok, je vois le genre. Moi, tout à l'heure.
Finalement, c'est du français.
Oui, et puis alors, c'est très très inspiré de Magma, c'est marrant quoi.
Alors, je connais pas Magma, tu vois, du coup.
Non, mais si ça te plaît, tu peux écouter Magma, il n'y a pas de problème. Tu vas aimer.
Je me le note.
Bon, allez, je baisse un peu, parce qu'en plus, sinon, le morceau est très long quoi.
Ah, le morceau
mais c'était rigolo, j'admets.
Et donc, a priori, projet plutôt à voir en live, a tout son sens en live plutôt qu'en musique enregistrée.
Ah, ben souvent, ces trucs-là, c'est un peu ça. Ouais.
Voilà. Non, mais très chouette à réécouter surtout. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses à entendre, à découvrir dedans. En fait.
Alors, je ne peux pas te garantir que j'écouterai ça toute la journée, surtout en essayant de traduire des livres. Mais bon, ok.
Mais tu vois, moi, en travaillant, j'écoute la bande-son que je passe, en travaillant les émissions à chaque fois.
Oui.
Et du coup, celle-là, je l'ai écoutée, je ne sais pas, une dizaine, une quinzaine de fois.
Ah oui, quand même.
Ah bah oui. Mm-hmm. Tu sais, je suis un peu monomaniaque des fois, moi, quand
non,
je travaille.
Non, pas du tout. J'ai rien dit du tout. Alors là, j'ai loin de moi cette idée. Donc. Les archives spatiales et les vaisseaux générationnels.
Ouais, dans la science.
Dans la science.
Ouais.
Alors, c'est possible ou pas ?
Alors, non, clairement, c'est pas possible, on ne sait pas faire.
D'accord.
Et il y a plein de problématiques, en fait, qu'on peut aborder. On peut faire un peu la liste des contraintes, en fait, que nous pose ce genre d'idées en science. Bon, la première chose, c'est l'étanchéité.
Oui.
Il faut vraiment que ce soit très étanche.
Oui.
Il faut savoir, par exemple, l'ISS, c'est étanche, mais en fait, il y a des pertes.
Oui.
Et notamment des sorties extravéhiculaires, ça crée des pertes.
Oui.
Et même, de toute façon, il y a des pertes parce que le vide est tellement vide autour
oui.
qu'il y a des pertes. Et encore, on est dans un vide qui n'est pas si vide que ça parce qu'on est autour de la Terre avec l'ISS, on n'est pas très loin. Quoi.
Oui, il y a des trucs qui se baladent.
Ah, donc si tu sors carrément du système solaire et
ah,
tout
si
ça...
Ah, si tu as un vide interstellaire, oui, c'est vide.
Il n'y a plus grand monde. Et donc les fuites seront d'autant plus grosses. Et ça, déjà, c'est compliqué parce qu'il te faut de la matière pour compenser.
Oui.
Parce que si tu pars sur des centaines et centaines d'années, ces fuites qui sont infimes vont représenter quand même quelque chose.
Oui.
Donc c'est tout bête, hein, mais rien que ça, voilà, chaud. Deuxième chose, il faut un système de survie en cycle fermé.
Oui.
Et ça non plus, on ne sait pas faire.
D'accord.
Alors, on ne sait pas produire de l'eau, de l'oxygène et des aliments pour des êtres humains sur une durée pas infinie, mais de plusieurs, par exemple de plusieurs dizaines d'années.
Parce
ou même
que le recyclage...
de plusieurs années, on ne sait pas faire.
Parce que le recyclage ne suffit pas.
Et ben, c'est qu'en fait, c'est... Il y a une certaine efficacité à un cycle de recyclage et on n'aura jamais 100%, de toute façon on le sait.
D'accord.
Mais il faudrait avoisiner des pourcentages très 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 élevés et puis avoir un truc très sûr qui tourne de manière ultra sécuritaire puisque c'est ça qui fait la survie de tous les gens qu'il y a dedans.
Oui.
Voilà. Et les problèmes de contamination, il y a plein de problèmes. Ça c'est quelque chose que je vais développer dans les parties suivantes. On va s'y intéresser de plus près.
Ils sont sués, tu vas chercher un iceberg dans les astéroïdes, tu le mets au cul de ton vaisseau et voilà, t'es
terminé
pour des siècles.
Ouais, terminé.
C'est quoi ces conneries ? En plus, si tu casses l'eau, tu obtiens de l'oxygène.
Oui.
Alors,
alors,
je vais aller leur dire, moi, à la NASA.
Non, le problème, c'est la gestion des déchets, clairement, oui. Et l'intoxication petit à petit, si tu veux.
Oui, ben d'ailleurs, c'est ce que je te disais. Quel est le problème qu'il y a eu sur Artemis, la mission toute récente qui a fait le tour de la Lune ? Ils sont partis avec les WC bouchés.
Les chiottes qui n'ont pas bien marché. Et ça met en péril, ça peut tuer les gens. Hein.
Oui, oui.
En fait.
À force.
Et encore, ils ne partaient pas très longtemps, ça allait.
Non.
Ils partaient combien ? Ils sont partis 2 semaines ?
Oui, ils parlaient d'inconfort.
Voilà, de gros inconforts. voilà, on est d'accord. Mais ce n'est pas la survie.
Et si tu pars 3 siècles, oui.
Ouais, si tu pars 3 siècles et que les chiottes ne fonctionnent plus, tout le monde crève.
Oui, voilà.
Voilà. La température.
Oui.
Eh ben, quand tu te balades, un truc qui fait zéro absolu autour, il faut que la température interne du vaisseau, elle reste.
Ah oui, oui.
Ça coûte de l'énergie, tout ça. Donc, il y a forcément une source d'énergie.
Les radiations.
Alors, les radiations, j'y viens juste après.
D'accord.
Mais rien que l'énergie, on réfléchit 2 secondes. Nous, tant qu'on fait des voyages dans le système solaire, on a le soleil. Panneaux solaires et tout, nickel. Et tout fonctionne comme ça. Mm. Dès que tu vas dans l'espace profond, eh ben, il faut une centrale à fusion nucléaire.
Ouais.
Chose qu'on maîtrise pas encore. Et puis l'amener dans l'espace et tout ça, enfin, l'allumer dans l'espace, enfin, c'est très très loin de nous en fait, ce genre de choses. Le rayonnement, comme tu en parlais. Mmh. Alors déjà, un orage, quelques orages solaires et tout le monde est mort à bord. Voilà. Donc il faut pouvoir s'en protéger. Alors il y a plein de méthodes, des parois très épaisses, mais alors du coup le vaisseau est très lourd. Des champs magnétiques qui repoussent la plupart des particules. Oui, mais pas toutes. Et alors là, tu vois, en fait, c'est le rayonnement, on peut considérer que c'est des collisions avec des particules microscopiques, enfin des toutes petites particules, des atomes, des ions, des choses comme ça.
Oui.
Mais on peut parler de collisions avec des objets plus gros.
Oui.
C'est-à-dire, tant que tu es dans un système planétaire, tu peux te gaufrer une météorite, un caillou, ou ne serait-ce que des poussières. Hein, si tu vas à 10% de la vitesse de la lumière ou 20% de la vitesse de la lumière, une petite poussière, ça fait du dégât.
Oui.
Très fortement.
Oui.
Voilà. Donc, voilà, il y a tous ces problèmes-là, quoi, à gérer. Il y a des solutions, mais elles sont plutôt hors de portée de notre science pour l'instant.
D'accord.
Voilà. Ensuite, il y a recréer la pesanteur.
Oui.
On sait faire un peu, mais pas tant que ça. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu un système dans l'espace qui,
souvent
dans l'espace
dans
où on a recréé la
souvent
la
dans la science-fiction, le vaisseau tourne sur lui-même.
Voilà.
Et il recrée quelque chose. Enfin,
voilà, ça
un
recrée
peu
une
pesanteur.
Force. Alors ouais, ça recrée une force. Oui, c'est ça. Quelque chose qui est similaire. Mais du coup, t'as une force de Coriolis.
Oui.
Qui est très forte,
oui.
Qui crée des nausées, qui crée plein de choses, qui a plein d'effets secondaires.
Oui, bon, ils vont pas nous faire chier
non
plus. Hein.
Du coup, en fait, des fois, on fait tourner un truc dans un sens et un truc dans un autre. Mm-hmm. Tu vois, une partie du vaisseau dans un sens, une partie du vaisseau dans l'autre, ça équilibre un peu.
Oui, ça je l'ai vu déjà.
Voilà, on fait des petites choses comme ça.
À l'écran, hein, pas en vrai. Tu veux pas que je me trahisse.
Et alors, en plus, c'est roues qui tournent, si tu veux. Tu vas, par exemple, équilibrer les choses pour avoir exactement la pesanteur terrestre ou t'en rapprocher très finement quand tu es sur la paroi, tu vois, donc sur le bord de la roue, j'ai envie de te dire. Sur,
oui.
D'accord. Mais par contre, si t'as des quartiers un peu plus centraux, bah, ils tourneront beaucoup plus vite.
Donc, oui. Alors, j'avais
non, beaucoup moins vite, beaucoup moins vite, pardon,
voilà,
je dis une
beaucoup
bêtise.
Moins vite.
Et
j'avais
du coup, moins de pesanteur.
J'avais vu un truc où les gens vivaient dans les quartiers centraux et allaient faire du sport.
Du sport.
Dans les quartiers périphériques.
Ouais, pour avoir de la pesanteur et pouvoir justement faire marcher les muscles, quoi. Bon, ensuite, il reste des choses toutes simples. Hein. L'organisation sociale, tu en as parlé.
Oui.
Est-ce qu'on gouverne tout ça par une IA? Ou est-ce qu'on installe du totalitarisme avec quelques
alors,
dirigeants?
Alors pourquoi ces deux solutions seraient-elles mutuellement exclusives?
C'est ça. Voilà. Mais bon, c'est sujet à la révolte tout ça. À l'instabilité.
Ouais.
Si tu presses un peu trop les gens, ça se rebelle.
Ah ben oui.
Surtout au bout de quelques générations où tu as peut-être perdu le sens de pourquoi on est dans un système comme ça.
Tu fais une dictature douce, on sait très bien faire ça maintenant.
Ouais, on connaît. Et du coup, tu peux imaginer aussi des systèmes beaucoup plus où les décisions sont prises de manière collégiale et tout.
Ah non, mais là, ça y est, il part dans le wokisme gauchiste. Là. On va se calmer là, monsieur Simon. Là.
Et là, le gros problème que tu as, c'est comment tu maintiens les objectifs de la mission.
Oui.
Au bout de quelques générations, c'est... Enfin, voilà. Ça, c'est très compliqué. Hein. Puis les organisations sociales, dès que tu mets plusieurs êtres humains ensemble, tu recrées les inégalités, la violence, toutes ces choses-là qui existent.
Oui, et puis tout ça présuppose que les gens gardent conscience de l'objectif de la mission.
C'est ça. Que tu as un système éducatif qui fonctionne.
C'est ça. Il faut donc... Oui, ça nécessite... C'est pas comme problème technique, au sens technologique.
Non.
C'est un problème d'ingénierie sociale.
Ah, humain, vraiment. Ouais. Et alors, au cœur de tout ce système social, il y a une chose très, très particulière dans un vaisseau générationnel, où les gens vivent. Hein. Je ne parle pas du truc où les gens sont congelés, parce que ils sont congelés. Non, c'est la reproduction, le sens de la vie.
Oui.
C'est compliqué. Est-ce que je fais un enfant pour qu'il naisse dans une boîte de conserve?
Et qu'il meure dans une boîte de conserve.
Et qu'il meure lui-même dans une boîte de conserve.
Oui. Et que quand même, il a envie, aussi, de faire des enfants.
Est-ce que je fais naître un enfant qui soit prisonnier?
Oui, oui.
C'est compliqué.
C'est pour ça que c'est un thème très porteur et très intéressant qui a été utilisé maintes fois.
Ben oui, parce que tu peux faire l'ingénierie sociale dedans et te poser toutes les questions de l'homme. Quoi. Et pareil, on a fait des systèmes de régulation des populations, notamment, je pense à la Chine, qui l'a vraiment installé dans son système social très fortement, par une dictature.
Oui.
Mais là, c'est pareil, dans un vaisseau, t'as pas le droit de faire des gamins quand tu veux.
Ah ben non, il ne faut pas en faire 12.
Ah non, puis il faut les faire quand il faut,
oui,
au bon âge.
Bien sûr, oui.
C'est maintenant, là. Si, allez-y. Non, mais on vous regarde, vous inquiétez pas, c'est maintenant.
Quelle horreur.
Ah donc, le sens de la vie, quoi. Ça pose vraiment la question du sens de la vie.
Oui,
alors,
non,
très fortement.
Puis, alors, ce qui est intéressant, je trouve, d'un point de vue, narratif, c'est que d'habitude, un voyage en science-fiction, c'est on va du point A au point B. Mmh. Et ce qui est important, c'est éventuellement le point A, mais
surtout le point B.
Tout le point B, on va coloniser une planète, envahir quelque chose, terraformer Mars, enfin, etc., etc. Pour les space opéras, en tout cas. Mais là, non. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a entre le point A et le point B.
Oui, parce que si tu vas arriver au point B, ouais, ça. Et puis si tu vas arriver au point B, faut bien faut que ça se passe bien entre les deux.
Voilà.
Et donc, de toute façon.
Alors, le problème, c'est que tu es quand même en train de sous-entendre depuis tout à l'heure qu'on a autant de chances d'avoir des vaisseaux générationnels que des réacteurs qui vont plus vite que la lumière. Ou aussi vite que la lumière, en tout cas.
Ouais,
donc
on n'a pas beaucoup de chance d'y arriver.
C'est pas gagné, quoi.
Non, c'est pas gagné du tout. Et dernière chose, tu vois, tout à l'heure, tu parlais d'une œuvre où il y avait mise en exergue de la première génération, ceux qui partaient là, et ceux qui étaient nés dans le vaisseau, qui n'avaient pas les mêmes objectifs et tout ça.
Oui.
Et en fait, imagine un truc avec, je sais pas moi, 15 générations.
Oui.
Tous ceux du milieu.
Oui.
Tu vois, ils sont ni partis de la Terre.
Ah non, non,
ils vont pas arriver non plus.
Ah non, c'est terrible. C'est comme le deuxième tome d'une trilogie. C'est pas le début, c'est pas la fin, et souvent c'est le plus faible des trois.
Ben oui.
Ça existe dans plein d'exemples.
Voilà. Mais là, c'est des générations humaines, c'est des êtres humains dont on parle. Voilà. Donc voilà, on a des gros soucis. Et puis finalement, le truc le moins réaliste à l'heure actuelle, encore plus, c'est t'imagines le poids du vaisseau, la taille du vaisseau. Alors c'est des dizaines de kilomètres. Ces vaisseaux-là, c'est des milliers de personnes, entre 10 000 et 40 000 a priori. Suivant ce qu'on pense à l'heure actuelle sociologiquement, ça serait le,
D'accord.
Ce qu'il faut, quoi. Une petite ville, c'est ce qu'il faut.
Mais dès le départ ?
Dès le départ.
Ah, d'accord.
Pour avoir assez de diversité génétique, notamment.
Oui, oui, ok.
Parce que si t'as des virus ou des choses comme ça qui se développent, des épidémies.
Oui.
Ou bien des mutations dues au rayonnement, tout ça, machin, bah, il faut de la diversité génétique pour que l'homme puisse s'adapter, continuer à s'adapter.
D'accord.
Voilà, donc t'as besoin de cette richesse-là. Puis pour la reproduction, il vaut mieux être un petit peu riche génétiquement aussi, hein.
Oui.
Oui. Et du coup, la taille du vaisseau, c'est plusieurs dizaines de kilomètres de long. Mmh. Enfin, c'est un truc gigantesque, que ce soit un tore, une boule.
Alors, j'ai vu dans une ou deux œuvres que j'ai lues des scénarios où le vaisseau, le gigantisme du vaisseau devenait un atout parce que tu le crachais sur la planète après l'avoir évacué, justement. Ou tu le crachais ou tu le posais si tu pouvais et tu le réutilises.
Bah oui, tu réutilises tous les matériaux pour construire ta civilisation,
etc., etc.
Bien sûr, il y a ça. Mais moi, je parle de la production du vaisseau.
Ah oui, non, mais là, on va toujours être dans le même problème.
Voilà, vu de nous. On avait parlé des méga structures là, autour des étoiles là, et tout ça. Là, hein.
Ah oui, non, c'est compliqué à construire.
On est dans le même type de schéma, c'est-à-dire qu'il faut une énergie folle, des ressources
c'est
de dingue.
C'est pour ça que l'émission s'appelle Science et Fiction.
Et fiction. Voilà. Et du coup, en fait. Et ça va être ma transition pour la prochaine partie, avant de passer une petite musique.
Oui, je vois quelle est la prochaine musique.
Ouais,
oui.
Le poids est vraiment très limitant. Et du coup, dans la science, ce qu'on fait à l'heure actuelle, et on va parler des systèmes de survie, en fait, de maintien de la vie dans l'espace, le poids est une des caractéristiques extrêmement fortes, parce que ce type de système-là, pour garder des gens en vie dans un vaisseau, bah finalement, il ne doit pas être lourd, parce que le vaisseau ne doit pas être lourd, parce que tout ça coûte extrêmement cher, extrêmement d'énergie et tout ça, actuellement. Et donc, en fait, il faut arriver à miniaturiser tout ça, il faut arriver à faire des choses qui ne prennent pas beaucoup de place, parce que l'espace aussi, c'est important dans un vaisseau, et qui soient légères et qui fonctionnent. Et, ouais, et on va parler de plusieurs tentatives dans ce cadre-là.
Bon, donc Ulysse 31.
Ouais.
Sérieusement, quoi.
Ouais, sérieusement, le générique.
D'accord. Le truc dont ma sœur est fan.
Ah bah, un dessin animé de mon enfance.
Moi, j'étais déjà trop grand. Voilà. Moi, j'étais déjà trop grand. On a une différence d'âge. J'étais déjà trop grand. Ma sœur est très, très fan. Ma sœur a ton âge.
Et franchement, c'est pas si mal que ça. Comme dessin animé de base pour des enfants.
Non, mais j'en doute pas. C'est pas la question.
Franchement, pas si mal que ça. Et le générique, je sais pas s'il va te plaire. Je suis pas sûr que ça soit trop ta tasse de thé en termes de type de musique. Enfin, on va voir.
Ouais.
Bon. À tout de suite sur Science et Fiction.
Musicalement, on peut en parler.
Musicalement, il n'y a pas grand chose à dire.
Non, parce que moi, mes références, je sais pas, des Beatles à Shostakovich en passant par John Coltrane, quoi.
Ouais, mais là, non, le groupe s'appelle Apollo.
Ah oui, ok.
Ah,
oui.
Bah oui.
Bon, au moins, il n'y a pas trop
pris. On est dans le thème, tu vois.
Oui, oui, ça va. Après, les paroles, oui, effectivement, oui. Mais alors, la boîte à rime de.
Les années 80.
Et les
critique pas les années 80.
Et alors, la voix du robot.
Ah, la voix du robot.
On en parle, la voix du robot.
Bah, je voulais l'utiliser pour notre générique quand on travaillait sur les robots au tout début.
Non, veto. Allez.
À la tête de Pierre-Paul au moment où il y a la voix de robot. Magique. Je suis tellement content. Bien, continuons tranquillement. Donc, les systèmes de survie dans l'espace.
Fucking hell. Pardon.
Donc les systèmes de survie dans l'espace, les systèmes de survie embarqués dans des vaisseaux, on peut généraliser avec les systèmes de survie même implantés sur une planète, parce que finalement c'est pas très différent.
Oui, parce que
sur Mars.
Ça, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que c'est le truc qu'on peut tester sur Terre.
Et on peut essayer de le tester
oui,
sur Terre.
Oui, enfin on l'a fait.
Voilà, premier test, Biosphère 2. Donc construction entre 87 et 91, et les gens rentrent dedans en 91 et en sortent en 93.
Question bête, Biosphère 1
c'est la Terre.
Ah oui, d'accord. Ça s'est toujours appelé Biosphère 2.
Toujours.
Ah ok, je pensais qu'il y avait eu un premier projet biosphère 1.
Oui.
Un...
D'accord. Moi aussi, puis je... en fait non, ils considèrent que la biosphère 1 c'est la Terre. Okay. Donc ils créent une deuxième biosphère 2.
Ce qui est très juste, oui.
Ce qui est très juste. Et en fait, cette biosphère 2, l'idée c'est de créer... Dedans il y a des biomes, il y a 8 biomes, tu vois, il y a de la savane, de la forêt tropicale, il y a plein de trucs.
C'est sous des grandes serres, gros
un...
dômes. Ouais,
exactement. D'accord. Sous un socle en béton, un grand dôme, c'est complètement étanche.
C'est sur le continent nord-américain ?
Ouais, c'est dans le désert de l'Arizona.
Ah oui, oui, oui. Voilà. Au moins c'est plat.
Ouais, et puis t'es pas emmerdé par, par le voisinage, par tout ça.
Non, c'est sûr, à part des serpents et encore et quelques araignées. Et...
Voilà. Oui. 3800 espèces hein, ah oui. embarquées, donc beaucoup de plantes,
oui,
beaucoup
c'est,
de trucs.
C'est l'arche de Noé quand même.
Ouais, c'est le principe en fait. Le principe, oui. c'est de faire une mini-terre.
Oui.
Et de mettre des gens à vivre dedans et de dire c'est comme ça qu'on va coloniser Mars.
D'accord.
C'est ça le statement de départ.
Par curiosité, il y a combien de personnes là-dedans ?
8.
Ah oui.
Que des scientifiques.
Ok.
Recrutés.
D'accord.
Alors certains parce que ils sont fans notamment des créateurs du projet, un monsieur qui s'appelle John Allen et qui est un espèce de gourou, qui avait un groupe dans Californie, tu sais, de gens, puis ils ont construit un bateau de leurs propres mains, ils ont été dans le monde partout et ils étaient potes avec un milliardaire qui est le mec qui finance, qui s'appelle Edward Bass, qui est un mania du pétrole texan.
D'accord.
Voilà. Et ils ont fait des projets mais vachement bien dans leur vie. Bon, ils font du théâtre mais ils ont fait des trucs vachement bien. Je sais plus exactement, mais par exemple, ils ont construit un bateau en équipe à 8, là, 8, 10, là, ils ont construit un bateau.
Est-ce que le fait d'être un espèce de groupe hyper soudé limite sectaire,
attends.
un avantage
ou... C'est pas eux qui sont dedans, c'est eux qui organisent.
Ah, d'accord.
C'est eux les leaders du projet.
D'accord.
Et dedans, il va y avoir un type, notamment un des scientifiques, qui est fan d'eux et qui va être un peu dans le groupe, mais pas vraiment, mais qui va être là pour cette raison-là, on va dire. Puis c'est un peu le seul. Les autres sont recrutés pour leurs compétences.
C'est le fou du roi.
Ouais, et en même temps, il est très compétent aussi.
Bon, d'accord.
Donc ça marche. Et les autres vont être recrutés vraiment sur compétences. Il y a un comité scientifique gigantesque qui va être réuni. Ils vont travailler avec toutes les universités américaines, les grosses universités américaines. Enfin, c'est un vrai projet scientifique à la
donc,
base.
Donc ça a eu un succès retentissant.
Et donc ça a eu surtout un gros retentissement médiatique.
Oui, mais je me rappelle de
tu te rappelles
oui.
Ouais. Et l'entrée notamment, elle est scénarisée et tout. Il y a les médias du monde entier.
Oui.
C'est gigantesque. Et ils se mettent une pression de dingue en fait. Et le problème qui va se passer, c'est que le milliardaire, lui, il voit, lui, c'est un philanthrope et tout. Il y a pas de problème. Il peut foutre du pognon dans un truc qui rapporte rien. Mais là, il voit que ça peut lui rapporter.
Ah oui.
Parce qu'il y a un attrait médiatique. Du coup, il lui va organiser des visites. Les gens vont venir visiter Biosphère pendant qu'il y a les gens dedans pour regarder par la fenêtre, faire des conférences vidéo, des
trucs.
Ils peuvent pas rentrer.
Ah oui.
Puisque le principe, c'est que c'est fermé.
Oui, voilà.
Et il va y avoir tout un merchandising autour de Biosphère 2 et qui va en fait changer un peu les objectifs du truc.
Ah oui, je comprends bien.
Ça va devenir un show. En fait, c'est un peu le premier Love Story.
Oui, okay, oui, effectivement.
Bon, il
n'y
a pas
oui.
la piscine. Enfin, il y a un océan à la place, mais ils vont pas faire des trucs comme dans la piscine. Hein. Il va pas trop se passer ce genre de choses.
Mais. 4 hommes, 4 femmes ou pas du tout ?
Ouais, je sais même pas, j'ai même pas regardé. Il okay. y a des hommes et des femmes, mais
d'accord.
je
non,
sais
mais
pas
d'accord,
plus.
D'accord.
Je me rappelle plus. Et donc, les gens qui sont dedans maintenant, je vais revenir sur eux. Eux, c'est des vrais scientifiques qui font des expériences, ont des labos. Ils suivent en permanence la concentration de CO2, d'oxygène. Ils suivent le retraitement de l'eau. Enfin, ils suivent tout ça parce que bah, ils survivent avec ça. Oui. Ils font de la culture, ils cultivent leurs propres trucs et tout ça. Et c'est vachement intéressant. Notamment, au début, ils cultivent des patates et des bananes, c'est ce qui marche très bien. Voilà. Et comme ils mangent des patates et des bananes.
Comme dans Seul sur Mars. Enfin, oui, il a guère que des patates, d'ailleurs.
Voilà, c'est ça. Voilà, et ça marche. Bon, le seul problème, c'est que, ben, en fait, 3800 espèces, c'est incontrôlable.
Oui.
Et ils ne savaient pas du tout. Ils n'avaient fait aucun test avant, donc ils ne savaient pas du tout comment ça se passerait. Et en fait, le fait est que, dans le sol qu'ils ont amené, ils ont amené des tonnes et des tonnes de terre.
Oui.
Tu vois, pour cultiver,
oui,
pour mettre
donc
leur biome.
Des bactéries, des insectes, des vers de terre, tout ce
bien
qu'on
sûr,
veut, oui.
Bien sûr, tout
normal.
Ce qu'on veut, tout l'écosystème. Pour oui. que ça marche, quoi.
Oui.
Et en fait, ce machin-là, il y a une bactérie qui va un peu proliférer dans le sol et qui est très consommatrice d'oxygène et qui va leur bouffer 0,5% d'oxygène, de concentration d'oxygène dans l'air par mois. L'oxygène
pardon.
Va se mettre à chuter. Ils comprennent pas au début pourquoi ça chute. Ils pensent qu'ils en produisent pas assez et tout ça. Mais en fait, non, ils se rendent pas compte qu'en fait, ils se font bouffer l'oxygène par une bactérie.
Enfin, je ris, mais c'est très intéressant.
Oui, c'est passionnant parce que ça montre qu'en fait...
Typiquement, le genre de problème qu'on pouvait pas imaginer ou... Peut-être pas.
Puisqu'avant,
quoi.
Personne n'avait essayé de vivre dans oui. une boule fermée.
Oui, d'accord.
Et donc, en fait, ça montre que bah, gérer l'oxygène, c'est pas simple. C'est pas parce que tu vas foutre un écosystème, genre, tu vois, un océan avec du plancton
et une jungle à côté.
Et une jungle à côté que. Oui. Non, mais non, en fait, non. En fait, non. Et c'est pareil, le CO2, ils vont avoir des problèmes parce qu'en fait, le CO2 va pas du tout rester stable. Il va beaucoup varier, des grosses variations.
Ouais.
Et tout ce stress en oxygène et en CO2 qui varie va tuer beaucoup d'animaux. Donc okay. ils avaient des vertébrés, des cochons, des chèvres, des poules, paf, ça va dégager. Et surtout, ça va dégager les pollinisateurs. Alors du coup, ils vont avoir du mal à produire la nourriture, ils vont un peu crever de faim à des moments. À des moments, ils auront perdu jusqu'à 16% de leur poids. Ça fait beaucoup, hein. C'est-à-dire que quand tu fais 80 kilos, ça fait quoi?
12 fois... kilos.
Voilà. Ça commence à faire. Hein.
C'est pas
et puis,
oui.
Puis, je veux dire, en rentrant, il n'y a aucune personne qui est vraiment sur... y a aucune personne qui est en surpoids et tout ça. Ils ont pris des gens vraiment en bonne santé et tout ça, parce qu'ils ne voulaient pas le risquer à leur vie. Donc, voilà. Donc, 13 kilos quand tu es en bonne santé, ça fait beaucoup. Hein.
Ah, c'est pas mal.
Ouais, c'est
ça
pas
a
mal.
Duré combien de temps ce...
2 ans. Ils sont restés vraiment 2 ans dedans.
D'accord.
Et c'est allé tellement loin, la quantité d'oxygène qui baisse, qu'ils sont tombés à 14% au lieu de 21% dans l'atmosphère normale.
Oui, là, t'as
donc,
des malaises. Oui.
Comme s'ils étaient en haute altitude,
montagne,
hein. Et ça a été catastrophique. Les gens ont commencé à s'engueuler dedans parce qu'ils avaient faim, ils n'avaient pas assez d'oxygène. Donc, la production, je parle d'émission télé là presque, mais c'est un peu ça quand même. Bah, le pilotage, ils ont dit, allez hop, on fait rentrer de l'oxygène, ils ont pris la décision. Ils ont fait rentrer aussi de la nourriture, ça sans le dire aux médias. L'oxygène, ils l'ont dit aux médias, la nourriture, ils ne l'ont pas dit. Ouais. Du coup, il y a eu des intrants en fait.
Oui.
Des choses qui sont rentrées dedans et ça n'a pas été médiatisé, c'était à moitié caché.
Oui.
Machin, ça.
Oui.
Et du coup, ça a été un scandale de dingue.
Oui, bien sûr.
Quand ça a été su, c'était
oui,
un scandale de dingue.
Oui, parce que du coup, ça fausse complètement l'expérience. Évidemment.
Exactement. La moitié du comité.
Évidemment qu'il fallait fausser l'expérience pour que les gens.
Pour que j'en crève pas. Mais il suffisait d'ouvrir la porte et de dire voilà, on en est là.
Ah oui, oui.
Sauf qu'ils ont préféré continuer le show.
Oui, ouais, d'accord. Non, je vois bien le problème.
Tu vois l'idée? Et du coup.
J'imagine bien, incidemment, le vaisseau générationnel qui serait un show.
Télé.
Sur Terre, mais pendant des siècles. Quoi.
Comment il s'appelle ce film Truman Show.
Mais voilà, mais sur des siècles.
Voilà, Truman Show sur des générations.
Mon Dieu.
Voilà, et donc du coup, ça a été un scandale. La moitié du comité scientifique a démissionné en cours et tout machin.
Mais il y a eu des retombées intéressantes au niveau scientifique quand même, ben, j'imagine.
Bien sûr.
On a découvert des choses.
Bien sûr, la première, c'est celle que tu as dit toi. C'est, ah ouais, en fait, c'est compliqué. Enfin, c'est
oui,
pas
oui.
Si simple.
Oui.
Rien que ça, mais voir que c'est extrêmement compliqué.
Oui, enfin, ça, on pouvait s'en douter. Si moi, j'arrivais à le penser, c'est que tout le monde peut le penser.
Ouais, mais il a fallu faire une arche de Noé.
Oui, d'accord.
Pour s'en rendre vraiment compte.
OK.
Pour le mesurer, tu vois. Et après, ce qui s'est passé aussi, c'est que derrière, ça a été. Donc, il y a eu un schisme, en gros, entre l'équipe qui avait pensé ça et le financeur.
Oui.
Pourtant, ils s'entendaient bien depuis 30 ans, les gars.
Ouais.
Il y a eu un schisme. Et tu sais qui a repris la direction du truc? Un mec qui s'appelle Steve Bannon, ça te dit quelque chose?
Oh mon Dieu.
Oh mon Dieu. Deuxième expérience avec Steve Bannon aux manettes.
Waouh.
Wow.
Et il était déjà aussi réac que maintenant?
Ouais, un taré. Alors, ils ont foutu des gens dedans et tout.
Précisons,
mecs...
hein, c'est l'architecte, avec Stephen Miller, c'est un des architectes idéologiques de
du
Trump,
Trumpisme.
Du projet 2025, etc.
Ah
etc.
Non, mais c'est un dingue.
C'est très, 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 à même pas à droite, c'est très, 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 très à l'ultra-droite. Vraiment.
Voilà. Voilà. Et donc, du coup, piloté par Steve Bannon, deuxième équipe qui part dedans, et là, ça part en sucette cacahuète. Les anciens, ils viennent péter des vitres, parce qu'ils pensent que les autres vont mourir dedans, vu qu'il y a un tortionnaire à la tête du truc. Et les gars s'engueulent dedans et tout, parce que c'est plus les mêmes objectifs.
Passionnant, il y a un film à faire sur ce truc.
Voilà. Et ça, là, ça dure même pas 6 mois, ça dure à peine 6 mois, et voilà. Et médiatiquement, c'est pas du tout mis en avant, c'est pas, enfin, ça marche pas, quoi. Voilà. Du coup, c'est devenu, par contre, donc l'investissement de ce milliardaire là, donc Biosphère 2, hein, qui a coûté quand même 200 et quelques millions là, 250 millions, un truc comme ça, c'est devenu le deuxième pôle touristique après le Grand Canyon dans l'Arizona. Il a gagné le type. Il faut encore payer des droits d'entrée. Les universités l'utilisent pour faire des études sur les biomes qui ont été remis en place et qui vivent toujours.
Ça, c'est intéressant.
Ouais, il y a plein de choses intéressantes. Voilà. Bon, on va s'arrêter là. On va passer une petite musique.
Oui, donc la musique de Aniara, le film dont on parlait tout à l'heure.
Ah oui, c'est pas une petite musique, pardon, c'est un extrait. Donc Aniara, l'Odyssée stellaire.
D'accord.
Ok, et je raconte l'histoire juste après.
Je peux vous poser une question d'astronomie?
Allez-y, je vous écoute.
Est-ce que vous avez la moindre idée du type de corps céleste qu'on pourrait croiser? Pardon?
Je n'ai rien dit du tout, parce que je n'ai aucune prévision. Je suis désolée.
Je vous croyais qualifié.
Je suis qualifié. La réponse est aucun.
Aucun?
Non.
Quoi?
On ne croisera aucun corps céleste.
Est-ce que c'est une blague?
On va s'approcher de GM54, mais il n'y a aucune chance qu'on atteigne sa masse. Les pilotes l'ont sûrement réalisé aussi. Je ne sais pas ce qu'ils fabriquent au commandement. Vous éteignez la lumière.
Ça a l'air brillant.
Très.
J'ai rien contre.
La lumière, s'il vous plaît.
Bon, tu éteins la lumière, là.
C'est fait, t'as pas entendu le clic-clic. Donc, toujours sur CFM, sur CFiction, les vaisseaux générationnels.
Petite... Et quand ça foire.
Et quand ça foire. Mais là, là, en fait, c'est parce que c'est un... Alors, le contexte, c'est quoi? C'est un vaisseau qui part vers Mars. Et le problème, c'est
donc, que... Donc, c'est pas du tout un vaisseau générationnel.
Mais pas du tout. Et en fait, le problème, c'est qu'il pète un moteur nucléaire. Ils sont obligés d'évacuer le combustible parce que ça craint. Et le fait d'avoir cassé le moteur et tout machin, ça a dévié leur trajectoire. Et ils partent vers l'espace profond.
Oui, en courant sur leur lancée.
Et ils n'ont aucun, voilà, aucun moyen de se propulser ou quoi. Donc en fait, ils comptent, première solution, ils comptent trouver un astre et profiter de sa gravité pour faire demi-tour.
Oui, pour faire un effet fronde, oui.
Voilà. Et là, là, c'est une discussion entre l'astronome du vaisseau qui habite dans la même chambre que l'héroïne qu'on suit et qui lui dit, non, il n'y aura pas d'astre. Il n'y aura pas de demi-tour.
Ah.
Tu peux éteindre la lumière ?
Ok.
Ok, voilà. Donc oui, c'est une ambiance un petit peu comme ça, et on voit la vis dégradée.
Et tu me disais que donc cette version française est dispo sur YouTube.
Sur YouTube.
Pour ceux que ça,
pour le film entier.
Ouais. Ça vaut le coup, je pense.
Ouais. Et on voit la dégradation du coup de la société dans le vaisseau. C'est en gros l'histoire du vaisseau qui part vers nulle part. Voilà.
Prévoyez un Valium quand même.
Ouais. Ouais, pour dormir après, ouais, prévoyez ou un peu de lecture. Hein.
Voilà.
Voilà, quelque chose. Bien, Biosphère 2 du coup échec, mais première tentative intéressante. En fait, pas première, Bios ça s'appelait, et c'était les Russes, et c'était bien avant.
D'accord.
Ils avaient déjà fait ça, mais ils l'ont pas médiatisé, ils ont fait des trucs dans leur coin.
Les Russes quoi.
Tout ça, j'ai pas trouvé trop de renseignements, j'ai pas trop creusé, parce que j'ai trouvé un autre projet qui s'est lancé en 1987, donc qui est vraiment en même temps que Biosphère 2, et par l'ESA,
oui.
Donc l'Agence Spatiale Européenne, et qui s'appelle MELISSA. Pour Micro Ecological Life Support System Alternative.
Ouh.
Wow. Donc, un système de survie dans l'espace à base
donc
de...
Donc, aucun rapport avec une métisse d'Ibiza, quoi.
Non.
D'accord.
À base d'écologie et de systèmes biologiques, en fait, qui proposerait une alternative pour survivre dans l'espace. C'est créé en 1987, donc ça fait quand même un paquet d'années, ça fait 40 ans qu'on travaille dessus. Et ils sont très loin d'arriver au bout.
Oui.
Le principe, c'est quoi? Le principe, c'est de créer un cycle. Un cycle avec 5 containers. 3 containers qui servent qui sont des containers où il y a des bactéries qui vont retraiter les déchets. D'accord?
Oui.
Et tous les déchets.
Oui.
Tous les déchets qui sont produits par l'expédition spatiale, c'est-à-dire les déchets des êtres humains, mais les déchets des bactéries les unes les autres, les déchets des plantes que tu vas planter pour manger, et tous les déchets que tu peux imaginer dans une activité.
D'accord.
Dans l'activité du vaisseau.
Oui.
Et qui vont prendre en compte la globalité du vaisseau, tu vois, pour le cycle. En fait, un des containers, c'est le vaisseau. Le vaisseau, c'est le container où les êtres humains vivent.
D'accord.
D'accord, c'est le container qui nous intéresse le plus, où il y a l'équipage qui survit.
D'accord.
Ok. Et donc, il y a 4 autres containers, il y en a 3 qui gèrent les déchets.
Nous sommes d'accord qu'il s'agit d'une simulation et qu'il n'y a pas des gens en train de vivre dans le container pour l'instant.
Alors là, pour l'instant, ouais, le d'accord. seul container qu'il y a eu dans l'espace, c'était un rat comme équipage, avec deux modules, un module derrière, qui était un module de création d'oxygène. Et c'était pour aller faire des tests dans l'ISS pour voir justement si ça te maintenait bien dans l'espace et tout ça. Parce que, voilà, je finis de raconter les différents modules. Du coup, il y a 3 modules pour recycler les déchets. Un module pour faire pousser des plantes, créer de l'oxygène et de l'eau. D'accord ? Donc c'est avec des algues et des plantes. Et donc un module où il y a l'équipage.
Non, okay. C'est très intéressant parce que ça veut dire quand même qu'il faut 3 fois plus, enfin une fois et demie plus de modules juste pour recycler les déchets.
Oui.
Que le reste du vaisseau.
Oui. Ah mais oui, complètement. Le recyclage des déchets, c'est ça qui est compliqué en fait. Bon. Et eux, leur technique, c'est de partir en fait du module de l'équipage pour dire, ok, nous, notre priorité, c'est qu'ils vivent. Donc en fait, de quoi ils ont besoin? Donc fournir les besoins. Et ensuite, on verra comment on gère les déchets. Ils sont pas du tout partis de, bon, il y a des gens qui vivent, ça va faire des déchets, comment on les gère? Non, ils sont partis à l'inverse.
D'accord.
Ça, ils sont obligés parce qu'en termes de sécurité dans l'espace, t'es obligé d'avoir un système qui foire jamais.
Ah oui.
Voilà. Et donc du coup, ils sont obligés de calibrer chaque conteneur avec les bactéries ou les trucs qui vivent dedans de manière extrêmement fine, donc de le connaître, on va dire, de pouvoir le modéliser. C'est impressionnant, ils font des courbes et après quand ils font des expériences, tu vois que les points sont exactement sur les courbes théoriques. C'est vraiment très impressionnant, ils arrivent à modéliser en fait la vie des bactéries ou la vie même des plantes et des algues de manière mais très 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 précise. Ça leur permet de pouvoir agir sur les systèmes, c'est-à-dire je sais pas moi, baisser la température, augmenter la température, limiter les intrants en nitrate ou en je sais pas quoi, ou en oxygène ou quoi pour les bactéries pour qu'elles agissent moins ou au contraire les augmenter pour qu'elles agissent plus, tu vois. En gros, ça permet de réguler les différents fonctionnements parce qu'en fait, si tu crées par exemple, je sais pas moi, 2 litres de CO2, 2 litres d'oxygène, pardon, il va bien falloir les consommer quelque part. Il va être sûr que soit tes passagers vont les consommer, soit tes plantes ou tes algues vont les consommer ou bien une autre bactérie qui va les bouffer. Parce que tu peux pas te permettre de créer trop, sinon tu vois ton vaisseau il va être trop rempli et puis il y aura beaucoup de fuites.
Oui.
Donc voilà, c'est très très fin, c'est un réglage en fait, si tu veux, c'est beaucoup guidé par le génie des procédés, où chaque procédé en fait, ils vont l'étudier, mais à un niveau de connaissance qui est jamais atteint sur des procédés biologiques et bactériologiques. Voilà.
Ok.
Donc une vraie compétence de fou. Et après, il y a la connexion des uns aux autres pour les régulations et tout ça. Et c'est aussi très, très complexe. Ils sont dans des problèmes vraiment d'une complexité hallucinante. Mais ils sont sur la bonne voie. Et ils, comme je te disais tout à l'heure, ils ont envoyé dans l'espace un rat qui était alimenté en oxygène uniquement par leurs algues. Voilà. Avec un petit conteneur d'azote pour alimenter les algues.
Ouais.
Voilà. Mais ça marche, tu vois. Ils arrivent à faire des choses qui fonctionnent, qui marchent. Ils ont juste pas encore tout le cycle. Et ils disent qu'ils sont loin de l'avoir. Parce que c'est d'une complexité sans nom. Voilà. Mais ils avancent très fortement. Et du coup, c'est la solution qui serait retenue pour aller faire un voyage. Voilà.
Bon.
Dernière phrase.
Vas-y.
Tu m'en lâches une encore ? Allez. ça a énormément d'applications dans le monde réel.
Oui, ça j'imagine.
Parce qu'en fait, gérer un truc en circuit fermé dans un vaisseau, en fait, tu n'as pas le droit de produire des déchets que tu n'es pas capable de recycler. Mais en fait, dans le monde réel, ça serait peut-être une solution.
Oula, ça y est, le wokisme réapparaît. Bravo. Écolo, cette fois. Bravo.
Ah ouais, c'est ça. Et du coup, en fait, il
gère... On avait dit une phrase.
Ouais, mais du coup, il gère du recyclage de l'eau dans des universités. Ou à Roland-Garros, par exemple.
D'accord.
Il gère dans des bateaux.
D'accord.
C'est logique, bateau, c'est un système isolé
aussi.
Ah
oui, c'est une arche, littéralement.
Et voilà. En plus, ce recyclage d'eau est complètement décarboné.
D'accord.
Ouais. Ils ont participé à l'invention des tests PCR très rapides. Et ainsi de suite. Voilà.
Ok. On a fait à peu près le tour.
On a commencé à faire le tour.
Bah, c'est compliqué, c'est un énorme sujet, on a bien vu.
Ouais, c'est très très gros. Et le projet Mélissa lui-même, jetez-y un coup d'œil, c'est vraiment très 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 intéressant.
Bon, allez, les Carpenters, vous n'en aurez pas beaucoup, chers auditeurs qui nous écoutaient en direct, mais vous aurez la chanson en entier sur le podcast.
Allez donc voir le podcast, ouais.
Voilà, allez, à la prochaine.
Salut. You're listening to All Hit Radio, and it's 53 degrees at 13 minutes past the hour. And right now in our All Request line, I've got Mike Ledgerwood on the phone. Hey, babe, what would you like to hear? Hey, babe, I'm sorry, I can't hear you too well. You're going to have to speak a little closer into the phone. Okay, babe, what would you like to hear again? We are observing your Earth. Hey, Mike, I'm sorry, babe, but that's not on our playlist. And by the way, you sound great over the phone. Anyway, if you give us your request, we'll be glad to play it for you, babe. So let's hear it. We are observing your Earth. Listen, Mike, I'm sorry, babe, but we can't... And we'd like to make... I'm sorry, Mike, there's... A contact with you. Baby. In your mind, you have capacities, you know, to telepath messages through the vast unknown. Please close your eyes and concentrate with every thought you think upon the recitation we're about to sing. Calling occupants of interplanetary craft. Calling occupants of interplanetary most extraordinary craft. Of interplanetary craft. Calling occupants of interplanetary craft. Calling occupants of interplanetary most extraordinary craft. You've been observing our Earth.
ability to form and transmit thought energy far beyond the norm. You close your eyes, you concentrate, together that's the way to send the message. We declare world contact day.